Radio Cité Genève.
Le grand invité.
Gilles Soulac.
C'est la semaine de l'égalité à Genève avec une conférence et un certain nombre de tables rondes. Déshabille ton genre et ce sera à l'Uni du Four ce mercredi à partir de 18h30 à la salle U300 ce 7 mars. Une conférence intitulée Le vêtement unisexe. Pour aller plus loin, Christine Barre, elle est professeure d'histoire contemporaine, également membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Elle viendra présenter ce sujet avec un certain nombre d'ouvrages à son actif. Entre autres, une histoire politique du pantalon aux éditions du Seuil en 2010. Bonjour à vous, madame.
Et bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. On va essayer de réfléchir aussi à cette utopie, peut-être, parce que le vêtement unisexe a fait quand même l'objet d'une certaine actualité, avec un styliste en plus, Rudi Gerschrich, vous nous en direz un peu plus dans un instant, dans les années 60, c'est bien cela ?
Oui, il est un petit peu oublié aujourd'hui. D'ailleurs, à l'époque, dans les années 60, 70, il était peu connu en Europe. Et donc, j'ai trouvé intéressant de le faire découvrir parce qu'il a été un pionnier de la mode unisexe.
Alors, c'est quoi ce vêtement unisexe ? De quoi parle-t-on exactement ?
Alors, on parle de vêtements qui sont strictement identiques pour les hommes et pour les femmes et qui s'affichent comme tels, comme des vêtements unisexe. Donc, c'est tout à fait révolutionnaire puisque dans la longue histoire de l'humanité, on a... toujours différencier les genres. Il y a des sociétés où il y a plus que deux genres, mais disons que dans la société occidentale, on a toujours différencié les hommes et les femmes, plus ou moins, par le vêtement. Donc l'unisexe, c'est une rupture.
Alors, les années 60, évidemment, cela fait référence aussi à une époque, une certaine époque de libération d'un féminisme assez important, quelques années après la guerre. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre un certain féminisme ou un désir de que ce genre puisse peut-être s'atténuer d'une certaine manière et la mode ou en tout cas le vêtement, Christine Barre ?
Oui, si ce n'est pas un rapport direct, c'est un rapport indirect, mais très important, hein, puisque c'est dans l'air du temps, 1968, c'est la naissance du mouvement de libération des femmes aux États-Unis, c'est la perturbation du concours de Miss America, c'est la critique du carcan vestimentaire qui opprime les femmes et leur corps, parce qu'on est aussi dans une époque de révolution sexuelle, de libération corporelle. Et évidemment, le vêtement de l'époque est très critiqué, et aussi le fait qu'il soit à ce point différencié pour les hommes et pour les femmes, avec le pantalon pour les hommes, évidemment, et le vêtement ouvert pour les femmes.
Alors, on voit bien, et on l'imagine aussi, que les femmes ont porté des vêtements assez différents, et c'est vrai avec les années 60. Bon, vous nous parlez aussi d'un styliste qui a vraiment marqué peut-être ce tournant. Les femmes ont commencé à porter le pantalon, elles continuent d'ailleurs, évidemment. Et c'est plus facile, peut-être une garde-robe plus importante pour les femmes. On ne voit pas beaucoup d'hommes porter la jupe. Christine Barre, il y a peut-être une inégalité à ce niveau-là. En tout cas, il y a une démarche qui n'est pas tout à fait la même, me tromperais-je ?
Effectivement, il faut réfléchir à ce qui bloque, à ce qui résiste, parce que des jupes pour hommes, ils s'en fabriquent, ils s'en vendent depuis les années 60, donc ça fait quand même un bon moment. C'est même de plus en plus fréquent, mais ça reste très minoritaire. Donc j'ai envie d'analyser ces blocages, ces résistances en termes de sexisme et aussi d'homophobie, parce qu'on reste sur un modèle très normatif de masculinité, hein, et on a l'impression qu'un homme qui porte une jupe se féminise.
Voudrait dire que la femme a fait le pas d'une certaine. Ça voudrait dire que la femme aurait fait le pas d'une certaine masculinité dans le vêtement et depuis quelques décennies, alors que l'homme n'a pas fait ce pas d'une certaine féminité. C'est ce que vous voudriez aussi exprimer ?
Ben, c'est surtout que ça montre qu'on peut dégenrer un vêtement, parce que aujourd'hui, quand on voit une femme en pantalon, on n'a plus l'idée de dire qu'elle est masculine.
Oui, bien sûr.
Hein. Voilà. Et pour la jupe, ça pourrait être aussi la même chose. On pourrait aller vers des vêtements, moins genrés et moins caricaturaux. Voilà. Hein, quand on voit les vêtements pour enfants, les rayons de jouets pour enfants, on est dans le rose, dans le bleu, et on sent depuis quelques années un ras-le-bol, une critique de plus en plus forte de cette vision très schématique.
On a retenu cette terminologie, en tout cas, de dégenrer Christine Barr, c'est clair. Maintenant, quel serait l'intérêt, parce que vous parlez d'une utopie, ce vêtement unisexe, quel serait l'intérêt d'aller vers ce vêtement, puisque vous parliez d'une libération, d'un rapport avec ce féminisme des années 60, quel serait l'intérêt d'avoir un vêtement qui puisse aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes? Vous y voyez quoi comme intérêt en tant que femme aussi, tout simplement?
Ça porte l'utopie d'une égalité des sexes et d'un monde nouveau à construire qui ne serait plus... Rudi Gernreich disait beaucoup qu'il ne fallait plus habiller les femmes modernes comme des héroïnes de Tchekhov. Donc un peu moins de nostalgie et un peu plus d'invention pour construire l'avenir.
Alors,
c'est vraiment la démarche utopiste des années 60 et je trouve qu'elle nous fait du bien aujourd'hui.
Alors, ce qui peut être aussi peut-être en opposition, mais vous allez me reprendre, lorsque l'on discute ici avec des femmes en entreprise à des postes assez élevés, elles nous disent qu'elles sont obligées de s'habiller comme des hommes alors qu'elles aimeraient s'habiller comme des femmes. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si vous allez faire le rapport avec moi et nos auditeurs. Et puis, le côté aussi de l'érotisme, il y a aussi, bien sûr, dans le vêtement, et vous le savez bien en tant que historienne dans ce domaine, un certain érotisme, une certaine façon aussi peut-être d'aller vers l'autre, de poser peut-être des repères. Comment faire avec tout cela? Comment arriver à allier tout cela? L'unisexe d'un côté ou au contraire le désir de vouloir se démarquer, l'érotisme et puis le monde dans lequel nous sommes?
Je dirais que pour l'érotisme aussi, on peut faire preuve d'imagination et qu'on n'est pas obligé d'avoir les yeux dans le rétroviseur et d'aller toujours puiser dans les modèles anciens, parce que ces modèles anciens, ils sont ambivalents. Et ils ont quand même beaucoup joué sur l'érotisation de la domination. Hein. Qu'est-ce qui plaît? C'est la vulnérabilité féminine qui est créée aussi par le vêtement, par les talons hauts, par les jupes étroites, par toutes sortes de choses. Et là, je pense qu'on a le devoir de collectif d'évoluer. C'est pas à moi de vous dire à quoi ressemblera l'érotisme de demain. Forcément, la rupture totale avec le passé, ça n'existe pas. Mais on doit gérer quand même ce qui nous vient du passé et cette difficulté, vraiment, avec l'érotisation de la domination.
Utopie ou pas? Et puis une dernière question, Christine Barr. Vulnérabilité d'un côté, séduction de l'autre, tout dépend du regard de la femme ou tout simplement avoir son libre choix de se dire ben, je peux être séductrice ou je peux ne pas avoir envie d'être montrée comme vulnérable?
Le libre choix, ça c'est vraiment la valeur fondamentale, même si choisir c'est toujours difficile et qu'on peut en payer les conséquences, les femmes le savent bien. Mais c'est la base du féminisme, c'est d'accroître la liberté des femmes et aussi des hommes.
Merci Christine Barr, vous êtes professeure d'histoire contemporaine et vous serez l'intervenante à la conférence du 7 mars prochain, c'est mercredi à partir de 18h30 à la salle U300 à l'Université Dufour avec cette thématique, le vêtement unisexe, une utopie dans le cadre de la semaine de l'égalité en ville de Genève.